Nous sommes donc maintenant dans cette deuxième conférence de Carême sur un sujet difficile et puis particulièrement d'actualité, la prière de demande, la prière d'intercession, parce que combien de gens ont prié pour que cette guerre n'éclate pas, et sans doute en faisons-nous partie, puisque ici même, à l'étage au-dessus, nous avons même répondu à l'appel du pape pour prier pour que cette guerre soit évitée. Donc, voyez, qu'il s'agisse de la guerre en Irak, d'une autre guerre, ou bien de la guerre dans nos familles, ou de la guerre en nous-mêmes, eh bien, nous avons bien souvent prié, et puis souvent, peut-être, nous avons été douloureux, oui, douloureux de ne pas voir venir d'exaucement. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'aborde aussi ce sujet, et on abordera la question de la prière pour la guérison la prochaine fois. Là, je reste dans la prière de demande elle-même. Un rapide rappel pour ceux qui n'étaient pas à la conférence de la dernière fois. D'abord, ne pas se tromper de Dieu. Il s'agit d'abord de ne pas se tromper de Dieu. Vous vous rappelez que la dernière fois, j'ai parlé de ce Dieu tout-puissant qui pose problème, qui fait problème. Il est tout-puissant, mais pas selon le monde. Pas selon George W. Bush. Vous voyez, c'est pas cette puissance-là. Alors, je me souviens qu'il y a une quinzaine d'années, je trouvais dans la littérature théologique des articles « La prière de demande a-t-elle un sens ?» il y a une quinzaine d'années. Ou bien un autre article « Un Dieu qui intervient dans nos vies ?» point d'interrogation. Et puis dans l'Église, on entendait toutes sortes de discours de théologiens qui nous expliquaient que prier Dieu pour lui demander un bien quelconque, c'était une prière païenne. On disait ça. C'était carrément païen. C'était magique, mais en tout cas, c'était pas chrétien. C'était aussi l'époque d'une toute une tendance symboliste, exclusivement symboliste de la théologie, c'est-à-dire que les Écritures ne seraient qu'une sorte de grand discours symbolique destiné à libérer l'homme d'un rapport primitif à la religion. L'homo religiosus, comme certains anthropologues ont pu l'appeler, mais qui serait en fait un espèce d'homme primitif de Néandertal, et qui se croit être devant le sacré dès qu'il y a un coup de tonnerre. Moi, je me rappelle, dans ma famille, j'étais un peu élevé comme ça, parce que quand il y avait un très gros orage dans mon village, alors c'était vraiment la grande émotion dans la famille. Et alors, on faisait du feu dans les petits fourneaux, et puis on y jetait des objets en laine, là, les petits ronds là, qu'on avait fait bénir. Et alors, on faisait ça, et nous, les enfants, on jetait tous nos petits objets dans le feu. Et puis ensuite, on regardait dehors pour voir si ça tonnait toujours. Je suis sûr que le Néandertal jetait des petits ronds dans le feu pour arrêter le tonnerre, vous voyez. Bon, ma grand-mère m'a jamais vraiment expliqué ce qu'on faisait. Bon, voyez, mais cette tendance théologique ne se préoccupait pas beaucoup de savoir si les événements relatés dans la Bible ou si les personnages bibliques avaient ou non existé. Pour eux, c'était le pouvoir d'évocation. Hein. On parle aussi parfois de la force mythique des récits qui avait un pouvoir libérateur. Comme le dirait un auteur plus récent, la Bible, ce serait comme des contes pour guérir, quoi. Des histoires qui viennent mobiliser des ressorts en nous, parce qu'on est mobilisé par des mythes. Voyez ? Eh bien, on peut dire qu'en 15 ans, les choses ont beaucoup changé. Maintenant, on n'entend plus tellement de discours essayant de démontrer qu'il n'y a pas de miracle, qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans la Bible. Vous voyez, on n'essaie plus de démontrer cela. C'est comme si les théologiens étaient rendus un peu à plus d'humilité, ou plutôt, leur préoccupation s'est déplacée. Ils se sont peut-être rendus compte que ce n'est pas à eux de dire à Dieu qu'il n'a pas de pouvoir, mais peut-être de dire quel est le sens du pouvoir de Dieu. Vous voyez, quel est le sens de ces miracles? Quel est le sens des signes et des prodiges, comme on dit dans la Bible? Et de vérifier si ce sens profond révélé dans la Bible est en cohérence avec la révélation évangélique, avec Jésus-Christ. Pour tenir ensemble, comme on l'a vu lors de la conférence dernière, le fait que Dieu est bien le Créateur tout-puissant du ciel et de la terre. Même Jésus le dit, vous savez, quand il est saisi dans l'Esprit-Saint, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre », vous voyez, il est bien celui-là, et il est en même temps le Dieu crucifié. Il est en même temps le Père tout aimant d'un Fils bien-aimé dans l'esprit d'amour.